Merci. Je m'excuse pour mon français. Malheureusement, je ne parle pas français très bien, mais j'allais faire un effort pour parler en français. La présentation en français. La protection du patrimoine et de la planification urbaine au Portugal, c'est la proposition de politique ou pratique en cadre de réflexion. C'est un travail que je fais avec un collègue, Marlos Jiménez, du Laboratoire national d'ingénierie civile au Portugal aussi. Qu'est-ce que j'irai parler? C'est un premier un encadrement du contexte national au Portugal, une contextualisation de l'organisation administrative, de la planification territoriale et de la protection et valorisation patrimoniale. Et depuis, les instruments de planification et le patrimoine, une petite relation, le début de la planification et la question du patrimoine, c'est une chose nouvelle. La planification au Portugal, c'est une chose nouvelle, dizaines d'années. Non dizaines, mais... Et le changement de la politique et la pratique avec... questions ou une réflexion. Pour entendu, Portugal avait trois régions. C'est Portugal continental et région autonomique de Azores et région autonomique de Madeira. Mais les limites administratives distinctes pour différents domaines d'activité, c'est très compliqué parce que, par exemple, dans l'agriculture, la division administrative, c'est ça. Pour l'aménagement du territoire, c'est ça. Pour les statistiques et le fonds communautaire, c'est ça. Et pour le pouvoir pour les élections nationales et locales, c'est ça. Très joli. Très facile de... Et il y a même... sont le c'est le cadre pour voir que ce n'est pas facile de travailler avec cette administrative, cette limite administrative complexe. Mais pour tous les effets... C'est centralisé en Lisbonne, c'est la capitale du pays, et c'est Portugal, c'est Lisbonne, et le reste, c'est paysage. C'est une phrase que se dit au Portugal. Bon. Pour effet statistique, nous avons trois régions NUT 1, continent Açores et Madeira. Nous avons sept régions NUT 2. Madeira et Açores sont régions administratives et régionaux avec un pouvoir qui est élu. Les autres, non. Sont représentations de le gouvernement central. Et nous avons 25 régions NUT 3. Mais, par exemple, pour patrimoine, nous avons d'origine autonome et 18 arrondissements au district et 308 municipalités, un pays petit, mais... Et 3092 freguesias, que c'est pas commun, mais c'est... C'est le similaire en France. So, c'est complexe. Pour la planification territoriale, c'est complexe comme une pratique obligatoire au Portugal. En 1944, il y a la loi qui obligeait la réalisation de schémas pour toute la ville portugaise, mais pas toute la ville avait un plan de 1944. En 1982, l'élaboration du schéma directeur municipal. En 83, élaboration du plan régional. Et c'est un problème pour moi municipal depuis l'aménagement régional et depuis national. C'est une confusion au Portugal. Et en 1990, l'imposition d'approbation pour les municipalités du schéma directeur municipal. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une directive communautaire qui dit que pour accéder à la fonds structurel, il est nécessaire d'avoir les équipements dans les plans municipaux. Et au Portugal, nous n'avons pas plan directeur ou schéma ou instruments d'aménagement. Et en 1990, il avait une obligation de faire le schéma directeur municipal. Ça, c'est ça une pratique récente. En 1998, la publication du Code d'aménagement du territoire. Pour moi, la législation dit « fait », depuis dit « comme c'est fait ». Et en 1999, la spécification pour l'élaboration d'instruments d'aménagement du territoire. Et nous avons instruments de planification et aménagement territorial, c'est vrai, de niveau national, régional et municipal. Les instruments sont à niveau national, le plan national de la politique d'aménagement de territoire, dans la loi de 1998, mais approuvé en 2007, et les plans spéciaux d'aménagement de territoire, la maritime, l'environnement, sont plans spécifiques. Alors, au niveau régional, nous avons le plan régional de la politique d'aménagement du territoire. La loi, c'est de 1983, mais les plans régionaux sont faits en 1995, pour là. Et au niveau municipal, le schéma directeur municipal, la loi de 1971, est obligatoire depuis 1990. Et au niveau local, la responsabilité de ces municipales, qui sont le plan d'urbanisation et le plan de promenoir ou plan de détail, il y avait une spécification que c'est le plan de promenoir de sauvegarde patrimoniale depuis 2009. L'élaboration, la responsabilité d'élaboration, c'est l'Assemblée des Républiques à niveau national. À niveau régional, c'est la Commission des coordinations régionales. Attention que pour la région autonomique, c'est le gouvernement régional. Pour les régions de Portugal continental, sont les commissions de coordination régionale qui ne sont pas éligibles. Elles sont nominées pour les.
Elles ne sont pas élues, elles sont nommées. Non, c'est pas éligible, c'est élu.
Ah, élu, ah oui. sont nommées, oui. Et. Au niveau municipal, c'est la municipalité qui fait l'approbation et l'élaboration de leurs plans. La législation portugaise en urbanisme et en management du territoire, un petit voyage, 1971, l'élaboration du plan local, depuis 1982, l'élaboration du plan municipal, plan régional en 1980, 3, 84, la délimitation de pouvoir entre organismes de l'État. C'est très important cette loi parce que donner à la municipalité la capacité de faire licenciement de construction.
Faire les autorisations de construire.
Les autorisations de construire et de recevoir le monnaie de cette acte.
C'est la taxe liée aux autorisations
oui,
de construire.
La taxe. Et c'est un problème parce que la municipalité, pour gagner l'argent, faire les autorisations un peu de... Je ne sais pas comment je dis.
De façon laxiste. Non, excusez-moi, je ne veux pas intervenir. On généralisait les autorisations pour gagner de l'argent.
Ah oui.
Généraliser.
Oui. En 90, la règle d'élaboration, approbation des plans municipaux d'aménagement territorial et en 1998, la loi d'aménagement de territoire. Le problème, c'est que pour moi, la municipalité fait cet aménagement de territoire et depuis, la région et l'État dit la stratégie pour le territoire. C'est complexe. C'est un problème au Portugal avec le management de territoire. Pour moi, je fais un plan municipal et depuis, l'État dit non, la stratégie pour la région, c'est ça. C'est pas comme tu fais. En 99, le régime d'instrument de management et pour la question patrimoniale, en 2004, il y a une loi que fondait la Société de réhabilitation urbaine. C'est la première fois qu'au Portugal se pense à une stratégie pour la réhabilitation urbaine parce que le développement de Portugal depuis de 1984, c'est pour d'expansion. D'expansion de la ville et d'abandonner le centre historique. Et en 2004, il y a une loi qui incentivait la réhabilitation urbaine. Et depuis, en 2009, il y a un régime de réhabilitation urbaine qui s'approche d'une réhabilitation avec une approche sociale, non seulement pour le bâtiment et pour la construction, et que depuis en 2011 se change pour une nouvelle régime de réhabilitation urbaine, mais c'est la continuation de la loi de 2009. La protection du patrimoine au Portugal, le début c'est en 1932 avec la classification du patrimoine, le patrimoine physique, le bâtiment et le patrimoine physique. C'est créé une commission avec pouvoir pour faire la classification du patrimoine. En 1949,
et ça
49. L'imposition des classifications des bâtiments avec valeur historique, culturelle, architectonique et possibilité de classification nationale par les autorités compétentes, c'est l'institut ou l'organisme créé, ou par les autorités locales ou pour les municipalités, le pouvoir de si à niveau national un bâtiment ou un bien c'est pas classifié, la municipalité avait la possibilité de classifier cette bien. En 1976,
Exercice difficile.
Ah oui, mathématiques. L'imposition des travaux de conservation des bâtiments classifiés par les propriétaires. Si le bâtiment avait, il y a problème de conservation, le propriétaire est obligé à conserver et réhabiliter le bâtiment. C'est une loi après la démocratisation du pays. Et c'est une loi de 1976. 85, la loi de patrimoine culturel portugais, c'est la première loi de patrimoine culturel, avec l'inclusion de patrimoine matériel, immatériel, enfin, c'est une loi de patrimoine abrangente. C'est le problème de... Et finalement, en 2001, loi de la protection et valorisation du patrimoine. La différence, c'est qu'en 1985, c'est la loi du patrimoine culturel portugais. Et en 2001, c'est la protection et valorisation du patrimoine. C'est pas portugais, c'est le patrimoine.
D'accord.
Non, c'est. et en 2009, la réglementation de la classification patrimoniale avec le plan de promenade de sauvegarde. Que c'est curieux que c'est en 2009, mais le premier plan de promenade, c'est détail. Plein de détails de sauvegarde. Le premier plein de détails de sauvegarde, c'est de 1994. C'est le premier plein de sauvegarde. Mais la loi, c'est de 2001 et consacrée dans la loi de 2001. Et à 2009, c'est la réglementation de cet instrument. Bon, résumé. La classification du patrimoine au Portugal peut être internationale, pour la UNESCO, nationale ou municipale. Et dans la protection du bâtiment est reconnue une zone de protection, minimum de 50 mètres, c'est il n'y a pas une étude ou une autre zone déterminée. Le minimum sont 50 mètres pour sauvegarder l'encadrement territorial. Les plans municipaux d'aménagement incluent règles pour la sauvegarde du patrimoine. Il y a un instrument de management et planification territoriale spécifique pour la protection et valorisation du patrimoine, comme le plan de détail de sauvegarde. Le propriétaire est responsable pour la conservation du patrimoine. Dans une opération de vente, l'État a la priorité dans l'acquisition par le prix de vente annoncé.
Pour tous les biens classés.
Pour tous les biens. Attention, priorité. C'est priorité, c'est un droit de préférence.
De préemption.
Je ne sais pas le nom.
Non, dit préemption. Sur l'ensemble des biens classés.
Non, c'est. Parce que après 2009, nous avons zone de réhabilitation urbaine. Tous les bâtiments dans la zone sont
pour, soumis à la plan.
Ah oui. Il est nécessaire une autorisation, une déclaration de l'Institut du patrimoine, de dire non, je ne pouvais
faire
le.
Il faut libérer
oui.
Le bien.
Oui, oui. Et l'État a la capacité d'exproprier, exproprier, pour réhabiliter ou pour réhabiliter. Et les instruments de planification comprenant les règles spécifiques pour la valorisation du patrimoine. Bon. Tout marche bien? Non. Il y a un faible impact des instruments territoriaux au niveau local pour l'adhésion à la réalisation des plans. La planification territoriale au Portugal, ce n'est pas bon. C'est un problème. La politique territoriale dans les années 90-2010, concentrée dans l'expansion pour nouvelles zones, est résultée dans un abandon des centres historiques. Et le problème, c'est le problème démographique portugais, c'est un problème de. Je ne sais pas. Hein? Absence de des prismes démographiques. Et si nous faisons un investissement en réhabilitation urbaine et par récupérer
les habitants
pour le centre historique que nous faisons à la périphérie. C'est en question. Et la classification patrimoniale au Portugal a porté sur la protection et non pas tant sur la valorisation, en penchant souvent l'utilisation et la récupération du patrimoine. Et dans les questions urbaines, le patrimoine reste un concept associé au bâtiment et non à le territoire. C'est une période de changement, mais ce n'est pas un concept reconnu partout. Aspect positif ou non, la classification du bâtiment imposait une zone minime de protection d'environnement de 50 mètres, selon que zone spécifique n'est définie. Après 1971, c'est bon, c'est mal, je ne sais pas. Depuis 2009, début à 2004, existe une politique de réhabilitation urbaine, premièrement centrée dans la question physique, mais après 2011, théoriquement, avec la dimension sociale, théoriquement. La croissance des process de classification avec la participation populaire, des freins de consultation populaire, avec la participation publique, pratique consolidée avec expérience comme Évora, Guimarães, Alfama, Lisbonne. Les propriétaires sont responsables pour la conservation et manutention du bâtiment classé après 1976. La simplification de règles de construction adaptées pour le vieux bâtiment après 2014. Il y a une loi de cession que durait juste avant de 2021. Pour le bâtiment avec plus de 30 ans, il y a certaines normes de construction. Parce que les normes constructives actuelles ne s'adaptent pas, ne sont pas adaptées à la réalité du bâtiment ancien et au vieux bâtiment. Et il y a un régime d'exception pour le bâtiment ancien, pour la construction, pour la reconstruction de cet bâtiment. C'est pour permettre la reconstruction pour l'utilisation par un hôtel ou par résidentiel pour résidence. Et c'est ça. Et merci.
Roméo.
Bon, bah, tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'aurais deux groupes des questions, si, juste pour lancer, après, bien évidemment, tout le reste. Et le premier, je profite de votre présentation avec une frise historique. Et donc, et aussi pour l'utilisation de la phrase le Portugal est Lisbonne et le reste du paysage, phrase très salazariste, oui. Ce qui nous permet de rentrer dans la phase. Et moi, j'avais cru comprendre qu'à la fin des années 70, pour répondre aux besoins techniques que les municipalités n'avaient pas développés pendant la période entre le 1933 et le 74, ils avaient créé des institutions pour supporter les absences, les besoins techniques de gestion du territoire. Et ça j'ai l'impression qu'il colle un peu avec une des dernières phrases que vous êtes en train de dire, c'est que l'aspect de la protection, de la valorisation du patrimoine est plutôt dans la protection du bâtiment, donc de l'objet, et pas encore dans le fait patrimonial à niveau territorial. Et donc une des questions, je me demandais comment c'est les difficultés spatiales que vous avez montrées dans les plusieurs regroupements territoriaux qu'il y en a au Portugal et l'absence de régions qui finalement ont été abolies ou ne pas créées grâce ou à cause d'un référendum. Et donc, comment la structure s'est formée, il a réussi à se former parce que c'est quelque chose de très récent. Ça date de ces derniers 4 ou 5 décennies. C'est que sur la protection patrimoniale n'est absolument pas un temps très long. Donc ça, c'est une famille de questions. L'autre, justement, ça se lie à la partie finale de votre discours, de votre présentation, qui était quand vous avez abordé la question des zones de réhabilitation urbaine. Je crois comprendre que les zones de réhabilitation urbaine sont très grandes, très vastes. Et donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur ? Qu'est-ce qui se passe avec ce changement énorme, si on prend en considération les territoires patrimoniaux, qui dérivent de l'invasion touristique, qui finalement a posé des questions de gestion du noyau central du pays, mais pas que à Lisbonne. Et même comment on gère des situations du type, pour revenir aux questions du PLU, de l'équivalence, de la comparaison, comment on gère les transformations, par exemple, de ce qui est l'autre côté du fleuve d'Otage à Lisbonne, avec les transformations à le port qui ferme. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un plan qui s'occupe de la question sociale, une autre qui s'occupe de la question matérielle, tangible. Comment on arrive à gérer les deux questions à niveau territorial ?
Bon, merci. Je me oubliais de la première question.
La première question, c'était justement une question, comment il s'est développé, comment ils se sont développés les instruments à niveau territorial sur le pays, parce qu'en effet, c'était quelque chose qui a été totalement différent de ce qui était finalement utilisé avant les années 70. Donc, on avait une absence de compétences. Les municipalités n'avaient pas le droit de planifier. Ils n'avaient même pas les données, si je ne me trompe pas. Donc, il y avait toute une question, parce que tout était centralisé à Lisbonne. Donc, il y avait une question conséquente à gérer.
Oui, le problème de la planification territoriale au Portugal, c'est en absence de formation en urbanisme. Au Portugal, c'est très récent et nous n'avons pas beaucoup d'urbanistes au Portugal et le problème c'est que le professionnel qui s'occupe de l'urbanisme et aménagement des territoires n'avons pas la capacité pour penser le territoire et penser le territoire d'une forme abrangente hein? Global, ah oui. Et le problème, c'est que je dis dans la présentation, mais passe rapide, que le problème, c'est que l'État obliger la municipalité à faire schéma d'aménagement du territoire, mais l'État n'a pas fait la planification territoriale régionale et nationale. Donc, la municipalité n'avait pas référence sur la stratégie nationale pour le territoire. C'est le premier problème. Depuis la pression des constructions après 1994, avec une contribution pour le licence de construction pour la municipalité, fait que la construction s'est autorisée pour tout le territoire. C'est possible de construire avec une vision sans vision structurelle sur le territoire, sans instrument de planification au niveau local. Hein? Et c'est un problème pour le développement de territoire et de la région. Et je dis que les instruments d'aménagement de territoire au Portugal, le premier schéma directeur municipal, sont des instruments de... Je dis que pas totalité des instruments, il y a bons instruments, mais la majorité c'est un instrument de... Parce que c'est obligatoire de faire. Son instrument de règlement pour la construction à une escale inappropriée pour faire cette chose. Et évidemment que ce problème, c'est transversal à outras políticas, outras
este problema, d'outra forma de action,
outras áreas do conhecimento, outras áreas de atuação, portanto, na economia,
d'outra forma de action,
ah oui, c'est transversal à outras políticas. Et la seconde question, je ne sais pas si je réponds. La seconde question, c'est...
Comment on gère ce qui était mis en exergue, ce qu'on voit de façon très conséquente dans ces derniers 5-10 ans, qui est là, avec l'impact énorme du tourisme, qui, bien évidemment, est très lié aux espaces qui sont patrimoniaux. Donc, comment on le gère, comment on gère le changement de propriété d'une quantité immense de résidence et même à d'utilisation de l'espace public.
C'est une pression récente et c'est très compliqué pour la municipalité, principalement Lisbonne et Porto la pression c'est meilleur en cette deux cités et c'est un problème que non, je n'avais pas une réponse pour ça, parce que c'est bon pour le développement économique de la cité, de la ville, et c'est bon pour le propriétaire, c'est bon pour le moradores, habitants,
pour le résident,
à la début, mais maintenant non. Les résidents sont contre le tourisme. Pas contre, mais le tourisme est un problème que les résidents nécessitent de touristes, mais considèrent le touriste méchant, je ne sais pas dire.
Il y a des effets négatifs.
Oui. C'est les effets négatifs. Et je ne sais pas, c'est un problème récent et nous n'avons pas réponse sur cette chose. Mais il y a une question qui est la récupération du patrimoine construit, c'est vrai. La réhabilitation urbaine dans cette zone, c'est vrai. C'est une utilisation pour Airbnb, un hôtel, hostel. Mais change la utilisation de le centre-ville, oui, change. Parce que maintenant, nous avons commerce pour tourisme et non le commerce de contact local et il y a une expulsion de le résident traditionnel de Lisbonne mais pour développer le tourisme et tourismification de le centre-ville et c'est un problème parce que peut-être dans 11 années avant, nous avons le problème de le touriste aller à Lisbonne voir touriste. Hein? C'est un problème parce que la population locale s'est expulsée pour la périphérie. C'est un problème que c'est un problème récent. Et nécessité d'une réponse, mais je n'avais pas la réponse. La question que faire sur la zone de réhabilitation urbaine, par exemple, pour Lisbonne, en 2009, quand se publiait la loi, Lisbonne, l'Assemblée municipale de Lisbonne dit, OK, toute la limite administrative de Lisbonne, c'est en zone de réhabilitation urbaine. Donc, le régime des cessions, c'est pour tout le territoire. Maintenant, il y a une correction, naturellement, parce que c'est dangereux, cette chose. Mais démontrer la capacité, la indépendance municipale et la capacité imaginative de l'agent que travaille dans la municipalité pour tout. Parce que le problème de notre chose est le problème de le tourisme et la pression touristique sur le patrimoine classifié, c'est pas vrai. Parce que la tradition salazariste, c'est pas bonne, mais il y a une capacité de l'Institut national pour permis ou non la réhabilitation et la utilisation de le bâtiment ou de la zone de protection pour faire le changement. Et il y a une capacité extraordinaire de le technicien de détruire l'investissement ou de détruire le désoir de développement. Désoir, disais-je? Oui, disais-je?
Désir.
De développement. Ou de utilisation, réutilisation du patrimoine. Parce que la vision est d'un patrimoine statique, avec une vision très statique de conservation patrimoniale. C'est une chose que c'est pas bon, mais pour autre, faire le
ça maintient une capacité d'intervention.
Mais alors, merci beaucoup. Il y avait deux interventions. Alors, peut-être Leïla, parce que non. Ah, j'ai cru, d'accord. Ah, c'était pas ça. Je croyais que vous vouliez intervenir et du coup, que, par exemple, Leïla, je disais que ça résonnait particulièrement à Bordeaux, cette question de la conservation du patrimoine face à un tourisme grandissant. Mais bon, après, c'est vrai qu'on sent bien qu'à chaque fois, on aborde des sujets forcément très différents, qu'on est obligé d'amalgamer parce qu'on n'a pas non plus un temps très important pour évoquer tout ça, parce que évidemment, sur la question de la protection et de la gestion et de la valorisation du patrimoine, on a des cas de figure entre effectivement une ville comme Lisbonne ou Paris ou Bordeaux, enfin, et bien d'autres bien sûr, où il y a de toute façon une demande forte pour habiter quand même globalement. Enfin, l'enjeu n'est pas la désertification, alors qu'on a évoqué aussi la situation de communes où il faut arriver à maintenir une population au sein du patrimoine et malgré les contraintes liées par exemple à la conservation du bâti. On parlait tout à l'heure de rénovation énergétique des bâtiments. Donc voilà, enfin, c'est vrai qu'on aborde des sujets très différents avec des contextes en termes de taille de ville, en termes d'attractivité des territoires qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc à chaque fois, on aimerait rentrer un peu plus dans le détail. C'est vrai que bon, voilà, Lisbonne et le besoin sûrement de garder la carte postale, par exemple sur le quartier d'Alfama, comme on peut la retrouver bien sûr à Paris, c'est pas du tout la même chose que un petit village ou une petite ville au Portugal où il y a peut-être un déclin démographique, une difficulté comme dans beaucoup de communes françaises à maintenir, vous l'avez évoqué par exemple, des commerces et des commerces de proximité aussi tout simplement. Enfin, voilà. Donc je ne sais pas si vous avez envie de réagir à ces éléments-là.
Moi j'avais une question sur cette capacité, sur ce droit de préemption dans les zones de réhabilitation, sur son effet en fait, sur comment ça a été utilisé, est-ce que ça a eu un effet pour peser sur le marché du logement, sur les prix, sur la disponibilité foncière, qu'est-ce qu'on en fait?
Le premier effet de cette dispositif, c'est économique. C'est pour faire que la transition patrimoniale, la transition entre le propriétaire et le vendeur et le comprador, acheteur, se faire, c'est déclarer officiellement le prix correct. Parce qu'il y a un désindane que la transmission de patrimoine, pour les effets financiers, c'est un, et la vérité, c'est autre.
Oui,
c'est
le premier.
Oui.
Ça permet une vraie déclaration du prix.
Et avec cette législation, l'État ou la municipalité, c'est ah non, cette prise, j'achète. Le second, c'est la possibilité de la municipalité acheter un bâtiment que c'est important pour le développement de la politique territoriale municipale. Mais la question, c'est que la municipalité en Portugal n'avait pas l'argent pour acheter le bâtiment. Je ne sais pas s'il y a un exemple portugais de d'application de cette chose, de cette
dispositif.
Alors, l'autre dispositif, c'est pour la société de réhabilitation urbaine ou pour la zone de réhabilitation urbaine, le pouvoir d'exproprier, non de forme définitive, mais juste pour faire la réhabilitation du bâtiment ou du quartier, et depuis, le propriétaire payer à la municipalité. C'est un dispositif que je sais que la municipalité n'avait pas l'argent pour faire ça. C'est un dispositif possible, mais pas d'utilisé. Alors, en 2004, c'est dangereux parce que la société de réhabilitation urbaine, qui sont extinctes en 2009, avait la possibilité de faire un privé, de l'investisseur privé. Et c'est dangereux parce que les investisseurs privés pouvaient avoir capacité pour exproprier et expulser le résident de le centre historique et de la zone de réhabilitation pour un intérêt économique, et c'est dangereux. Hein. Et en 2009,
c'est fini.
C'est en politique de 2004-2009, la possibilité de l'investisseur privé faire la gestion de la société de réhabilitation urbaine, c'est fini. Et c'est un instrument qu'il y a une expérience à Porto, dans l'asile de Porto. Cet instrument de société de réhabilitation avec l'intervention d'une gestion privée de territoire avec pouvoir pour exproprier, que c'est une chose strange parce que l'expropriation c'est de l'intérêt public et c'est ça.
Oui, j'aurais deux questions. Une qui s'inscrit un peu dans la continuité de ce que disait Patrice tout à l'heure. La municipalité de Lisbonne, finalement, a acquis un patrimoine assez important au cours du temps qu'elle a commencé à vouloir se débarrasser à partir des années 2012 environ, avec un programme qui s'appelait « Tu réhabilites en premier, tu payes après », et des négociations qui étaient faites auprès justement des banques pour avoir des taux d'emprunt qui étaient assez faibles. On a un peu de recul maintenant. Je voudrais savoir, est-ce que ça a eu justement un effet sur le marché de l'immobilier et sur la valeur du patrimoine dans le centre historique de Lisbonne? Ça, c'est ma première question. Et puis moi, j'ai observé justement toujours à Lisbonne qu'au fond, les acteurs publics, municipaux ou autres, mobilisaient de plus en plus le patrimoine immatériel. Je pense par exemple à la classification du FADO, mais pas seulement, y compris en patrimonialisant les résidents dans leur quartier. Je voulais savoir si finalement cette évolution-là, en fait, elle témoigne des difficultés antérieures sur les dispositifs qui existaient et que vous avez expliqué dans votre diaporama, ou bien si c'est vraiment une évolution nouvelle des politiques publiques patrimoniales dans une grande capitale comme celle de Lisbonne.
Je ne comprends pas la question parce que c'est très, très vite. Et
je peux le faire en la... partie.
Je m'excuse.
Tinha duas perguntas. A primeira é o reabilita primeiro e paga depois. Se teve um efeito sobre o mercado imobiliário em Portugal, porque já temos alguns anos assim depois, foi em 2012, agora já temos um bocadinho de recuo. E a segunda é a mobilização do património imaterial, por exemplo, como o FADO, os residentes dos bairros, aldeias. Se isto é uma testemunha de uma evolução, de uma dificuldade dos antigos dispositivos que existiam em Portugal e que não eram capazes de resultar, ou é uma forma de evolução das políticas públicas numa capital como Lisboa?
Bom, merci. Mais la première, que c'est la politique de 2012 sur la réhabilitation urbaine et l'utilisation de le fonds communautaires Jessica. C'est le programme Jessica que faire le financement de la réhabilitation. C'est pas un succès au Portugal. La banque et la règle appliquée pour accéder à cette fonds, c'est pas facile pour l'argent de faire la réhabilitation des filles. Depuis, la municipalité avait la nécessité de délimiter la zone de protection, la zone de réhabilitation urbaine,
Et pour accéder à cette politique, c'est nécessaire que le propriétaire, le bâtiment, c'est dans l'intérieur de cette zone. Et le problème, c'est nous n'avons pas une stratégie, pas en Lisbonne, mais à l'autre ville et l'autre région du pays. Nous n'avons pas une stratégie économique pour la région et pour la municipalité. Et la question, c'est réhabiliter pourquoi ? Et la population não houve uma adesão ao fundo, por isso. Não utilizei pas l'instrument. La seconde question, Fado, patrimoine immatériel, c'est pas le unique parce que nous avons la... Non, c'est en Portugal, oui. Fado, comme patrimoine immatériel... Ah non, la diète méditerranée, c'est autre chose. C'est pas Fado, c'est pas Lisbonne. Fado, c'est Portugal. Mais c'est Lisbonne que c'est la capitale et c'est le responsable pour la soumission et pour la classification, la candidature. Je pense que c'est pas récent le stratégie de développer le patrimoine immatériel au Portugal. C'est pas une chose récente. Je pense que oui, le changement de la politique culturelle au Portugal avec la utilisation de la stratégie internationale aussi, la carte internationale et le développement de la théorie sur la culture, il y a contribué pour le changement de l'attitude de les institutions portugaises que s'occupent de la culture. Mais je ne sais pas si dans les instruments territoriaux, la question immatérielle c'est utilisé. Je ne sais pas. Parce que ce n'est pas facile dans le contexte national de faire cette utilisation d'une stratégie matérielle dans les instruments de développement ou de management de territoire. Mais la loi, et la loi c'est la loi, dit clairement dans la loi la législation d'aménagement du territoire à Portugal dit clairement que le patrimoine matériel et immatériel c'est fait part du territoire et comme tel c'est utilisé pour le développement de la communauté. Je ne sais pas si j'aurais répondu, mais au portugais c'est mal.
Je ne sais pas si vous avez donc une question, une réaction. Sinon, je vous propose de faire un petit break.